Rencontre avec Loïc Barrière sur Radio Orient.
L'invité de rencontre est Caroline Hayek, journaliste à L'Orient Le Jour et prix Albert Londres 2021. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez été récompensé par le prix le plus prestigieux pour les journalistes francophones pour des reportages que vous avez consacrés à la double explosion du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth. Un drame qui s'est produit en fin d'après-midi. Alors, c'est un triste anniversaire, ce 4 août. C'était il y a 2 ans. Quel souvenir gardez-vous de cette journée?
Alors, le 4 août 2020, je n'étais pas au Liban. À ce moment-là, j'étais en France en vacances, donc je n'ai pas ressenti de la même manière forcément que tous mes compatriotes. Je suis rentrée quelques jours plus tard parce qu'il y avait l'urgence aussi de voir comment mes proches, mes amis, tous les gens que je connaissais qui ont été touchés, qui habitaient dans les quartiers qui ont été endommagés, se portaient. Et puis aussi, il y a eu l'urgence d'aller écrire, raconter cette ville complètement défigurée, de parler à toutes ces personnes qui avaient tout perdu, qui avaient été blessées dans leur chair et qui avaient perdu leurs habitations. Alors deux ans plus tard, c'est vrai que c'est un triste anniversaire. L'ambiance est extrêmement morose. La crise économique et politique est définitivement bien installée au Liban. Le pays entier continue de s'effondrer. Et ce qui est triste et qui est grave, c'est que les gens commencent, une partie en tout cas de la population, commence à s'habituer à cet effondrement. Donc on ne voit plus de manifestations dans les rues, alors qu'il pourrait y en avoir, parce que il y a des graves crises du pain, les gens n'ont pas les moyens de payer des soins hospitaliers, n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Et donc là, je pense que pour en tout cas une grande partie de la population, le 4 août reste une date symbolique, mais je ne sais pas s'ils descendront aujourd'hui, s'il y aura beaucoup de monde dans les rues de Beyrouth aujourd'hui.
Alors, vos articles qui ont été récompensés par le prix Albert Londres, Caroline Hayek, avaient pour titre « Promenade dans un Beyrouth en déliquescence »,« Les premiers jours du reste de leur vie » ou encore « Ils ont fui la guerre en Syrie, ils sont morts dans les explosions de Beyrouth ». Vous avez recueilli des témoignages de survivants et de familles de victimes. Ces familles, aujourd'hui, comment vont-elles?
Alors, j'ai pu parler à certaines d'entre elles, où j'ai eu des nouvelles à travers d'autres, des collègues journalistes. Certaines familles devaient, je prends l'exemple par exemple de la famille de la petite Alexandra Najar, 3 ans et demi, qui était décédée lors des explosions, qui avait été propulsée contre le mur de son appartement. Et ben, sa famille qui avait trop de souvenirs douloureux au Liban, l'année dernière me racontait qu'ils devaient partir du pays. Et finalement, ils sont restés, ils continuent de se battre. Donc, ce sont Tracy et Paul Najar. Ils ont eu un autre enfant, le petit Axel, qui est né il y a 3 mois. Et ils seront aujourd'hui aux manifestations plus déterminés que jamais, parce qu'ils veulent se battre pour que justice soit rendue, pour que l'enquête puisse avancer. Donc voilà, il y a d'autres familles avec lesquelles j'ai pu m'entretenir, qu'on a suivies, qui sont dans des situations terribles, qui continuent de bénéficier d'aide pour certaines, mais certaines sont complètement au tabois, elles essaient d'avoir un peu de soutien de leur famille, de leurs proches. Mais surtout, ce qu'ils demandent, c'est que justice soit faite, qu'on sache pourquoi, comment le port de Beyrouth a explosé.
On va parler de l'enquête dans un instant, mais justement, vous nous dites que ces familles essayent de survivre finalement, car il y a d'énormes problèmes financiers au Liban. Par qui sont aidées ces familles? C'est uniquement la solidarité familiale ou bien l'État joue-t-il un rôle? Est-ce qu'il y a eu des indemnisations par exemple?
Non, l'État ne joue aucun rôle, il ne peut pas. L'État s'est complètement effondré. Donc là, c'est surtout, les familles comptent surtout sur des aides d'ONG, d'ONG étrangères ou libanaises, qui ont reçu un afflux de dons assez massif en 2020, puis ça a continué ces quelques années, vu que la crise s'est aggravée. Et sinon, certaines familles peuvent compter sur l'aide de proches qui vivent à l'étranger, qui gagnent, qui ont des salaires assez décents pour pouvoir envoyer une partie de cet argent au Liban. Donc l'État est complètement aux abonnés absents.
On se rappelle qu'au moment de cette explosion, les Libanais disaient finalement « plus jamais ça ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il y a un avant et un après, ou bien la vie a repris son cours avec son lot de difficultés? Vous nous avez dit qu'il y avait une forme de résignation finalement.
Bien sûr. La vie a repris son cours malheureusement, parce qu'il y a des choses. On n'a plus le luxe de penser au danger de ce qui peut représenter le port, parce qu'il faut survivre aussi au quotidien. Il faut pouvoir se loger, avoir les moyens de se loger, de payer son électricité, de se procurer de quoi manger. Donc c'est une course contre la montre en fait quotidiennement pour les Libanais. C'est un stress tel que parfois ils enfouissent les blessures, les traumatismes de ce 4 août. Et là, il y a quelques jours, il y a une partie des silos du port de Beyrouth qui s'est effondrée, donc ça a procuré un nouveau choc pour une partie de la population, surtout dans les quartiers avoisinants. Quand ça s'est produit, donc le 31 juillet, les gens des quartiers près du port de Beyrouth, certains ont les voyés fuir, portant des masques parce que ça a dégagé toute une poussière de la fumée. Donc il y avait une crainte qu'un nouveau 4 août, qu'une nouvelle explosion se répète.
Est-ce que c'est une crainte au sein de la population libanaise qu'une telle catastrophe se reproduise à nouveau, ou bien il y a eu un audit qui a été réalisé au Liban et qui fait qu'aujourd'hui on peut être rassuré qu'un tel événement ne se reproduira plus?
Non, on ne pourra jamais être rassuré, parce que déjà l'enquête n'est toujours pas terminée, elle se passe complètement, elle est à l'arrêt depuis de nombreux mois. Donc on ne sait pas s'il y a du nitrate qui est stocké ailleurs. L'État, comme je disais, est aux abonnés absents, il n'arrive plus à gérer quoi que ce soit. Donc voilà, il peut très bien y avoir d'autres explosions, peut-être d'une moindre ampleur, mais dans d'autres régions libanaises. Donc forcément, la crainte est toujours là. Je sais que voilà, les habitants qui sont proches des quartiers du port, certains sursautent à chaque fois au bruit de klaxons, quand des portes claquent, enfin, ça reste très très présent. Bien sûr, il y a cette peur pour les Beyrouthins et pour les Libanais qu'un tel événement se reproduise.
Alors l'enquête, parlons-en, Caroline Hayek, vous nous dites que cette enquête n'avance pas. Qu'est-ce qui explique justement le fait que l'enquête ne progresse pas?
Alors c'est comme pour la date anniversaire de l'an passé, on est au même stade. À cause d'obstruction politique, l'enquête est à l'arrêt. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les autorités qui sont censées apporter une réponse à toutes les familles des victimes, on est très loin de l'étape des indemnisations dont vous me parliez tout à l'heure. Donc, mais ce qui se passe, c'est que pour éviter toute inculpation parmi la classe politique de responsables, de personnalités, ils font tout pour torpiller cette enquête. Cette enquête qui, pour l'instant, ce que l'on sait déjà, c'est qu'il y a trois volets. Il y a eu une enquête journalistique qui a été faite l'an dernier qui a montré que le nitrate qui a explosé, qui était stocké au port, avait été importé par une société détenue par des hommes d'affaires russo-syriens. Donc voilà, selon l'enquête, ce nitrate aurait pu être destiné au régime syrien de Bachar el-Assad pour fabriquer des bombes. On sait déjà qu'il a utilisé du nitrate d'ammonium pour fabriquer des bombes qu'il larguait sur sa population. Ensuite, il y a un deuxième volet, c'est sur la question du stockage, et ça, l'enquête libanaise a montré qu'il y a beaucoup d'avancées sur ce point-là. Il y a des responsables qui ont été pointés du doigt, comme l'ancien ministre des Finances, le ministre des Travaux Publics, l'ancien Premier ministre Hassan Diab, mais bien sûr, tout le monde se retranche derrière leur immunité politique. Et il rejette la faute sur le juge chargé de l'enquête, le juge Tarek Bitar, et il utilise tous les moyens possibles et inimaginables pour faire saborder cette enquête. Donc, en faisant pression au niveau de la rue, au niveau de la rue, sur les réseaux sociaux, mais aussi en écumant toutes les voies judiciaires pour entraver l'enquête. Et il y a un troisième volet aussi également, c'est qu'est-ce qui a fait exploser ce nitrate d'ammonium? Donc, pour l'instant, ça, on l'ignore complètement. On sait juste, selon l'enquête, que ce n'est pas une frappe aérienne qui a pu causer l'explosion. Alors, à savoir si c'est un accident dû à de la mauvaise gestion de ce stockage de ces produits extrêmement dangereux qui ne devaient pas être là pendant des années, alors que les responsables savaient que c'était stocké ici, ou est-ce un acte volontaire, voilà, on saura à la fin de l'enquête.
Vous avez le sentiment que ce drame est le résultat des carences de l'État, même si il est difficile de pointer du doigt telle ou telle personnalité ?
Bien sûr, c'est une responsabilité partagée de certaines personnes qui étaient au courant de comment elles ont pu être au courant pendant des mois, pour certaines pendant des années, de stockage de produits aussi dangereux proches des habitations et ne rien faire. C'est complètement aberrant. Donc ça montre clairement qu'il y avait un problème structurel au sein de l'État libanais et que maintenant tout le monde est en train de se rejeter la responsabilité.
Aujourd'hui, de nombreux Libanais continuent à quitter le pays à la suite de cette catastrophe qui a été une sorte de point culminant dans l'histoire récente du Liban.
Bien sûr, bien sûr. Suite aux explosions du port, il y en a beaucoup qui sont partis, notamment des jeunes. Mais c'est surtout la crise aussi qui les a convaincus de partir. Parce que tout simplement, ils peuvent plus survivre, ils peuvent plus vivre de leur métier. Il y a beaucoup de chômeurs maintenant au Liban. Donc forcément, des médecins, des infirmières, sont des professions très demandées à l'étranger, sont partis en Europe, sont partis dans le Golfe, notamment, où les Libanais sont généralement très appréciés. Beaucoup de jeunes aussi sont partis faire leurs études, donc ça c'est très compliqué pour les familles parce qu'elles doivent se procurer de l'argent en devise étrangère pour pouvoir assurer la vie de leur enfant à l'étranger. Oui, les gens continuent de partir. Il y a une telle lassitude de ce pays, c'est un combat quotidien que je comprends que les gens soient tentés de quitter. Après, peu y parviennent. Il y en a pas mal aussi, on a eu beaucoup de drames ces derniers mois de personnes qui ont souhaité partir dans des embarcations de fortune et certaines se sont noyées au large des côtes de Tripoli au nord du Liban. Et ça, c'est terrible. Donc, c'est des Libanais, des Syriens qui espéraient partir pour Chypre, ensuite rejoindre l'Italie. Et voilà, ça s'est très, très mal terminé. Et en plus, quand on leur parle, quand on va voir les rescapés, par exemple des pères de famille qui ont perdu leur mère, leurs enfants, leur épouse et leurs enfants, ils disent que ils sont prêts à recommencer, ils vont remettre de l'argent de côté et ils essaieront de repartir parce qu'ils ne veulent plus rester dans ce pays qui leur a tout pris.
Caroline Hayek, dernière question. Quelques députés indépendants ont été élus lors des dernières législatives. Est-ce qu'ils incarnent une forme d'espoir pour les Libanais ?
Bien sûr, les élections législatives du 15 mai ont donné des signes d'espoir, de changement, parce qu'il y a l'élection de 13 députés issus de la contestation. En plus, il y en a plusieurs qui ont été élus dans des régions qui sont généralement fermées, qui sont réservées au tandem chiite, au Hezbollah et au parti Amal. Donc ça, c'était vraiment un exploit qu'ils ont fait. Ils ont brisé quelque chose qui était... Donc forcément, ils incarnent le renouveau, mais après, ils ne séduisent pas la majorité de la population. Ils séduisent qu'une petite partie, évidemment, parce qu'ils ont des idées aussi qui sont avant-gardistes. Ils prônent le mariage civil. Ils veulent appuyer les réformes structurelles de l'État. Alors qu'il faut savoir que la résilience de la classe politique, des vieux partis politiques, est telle qu'ils ont su, malgré la crise, malgré les manifestations qu'il y a eu à partir du 17 octobre 2019, malgré le 4 août 2020, les explosions du port, ils ont su ressouder leur base, malheureusement en usant du clientélisme avec cette crise, en donnant voilà un peu d'argent par-ci par-là, en donnant des vivres, et ce qui fait qu'ils ont pu garder tous ces gens autour d'eux.
Merci Caroline Hayek. Je rappelle que vous êtes journaliste à L'Orient le Jour et prix Albert Londres 2021. Merci d'avoir été l'invité de Rencontre.
Merci à vous.